Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, nous sont données, ici et maintenant, en Dieu notre Père. Que chacun de vous se sente ici comme chez lui, dans cette maison, où nous sommes venus pour ensemble nous ouvrir à la présence de Dieu, pour chercher sa parole dans la lecture de la Bible et pour l'adorer, lui, le Dieu de tous et de tout.
Bienvenue à vous tous ici dans ce lieu ce matin. Nous allons avoir l'honneur et l'avantage d'entendre ce matin la prédication donnée par Valérie Nicollet, qui est professeure de Nouveau Testament à l'IPT, donc l'Institut protestant de théologie de Paris, et aussi doyenne de cette belle maison où l'on forme des théologiens, des pasteurs. Tous ne se deviennent pas pasteurs, mais en tout cas tous sont dans la recherche à l'intérieur des textes bibliques et de tout ce qui concerne notre culture protestante. Donc merci à Valérie d'être avec nous ce matin. Elle a pris pour nous ce temps précieux qu'elle a pour la recherche pour venir nous annoncer la parole et nous sommes très reconnaissants. Bienvenue à tous les enfants ce matin qui sont là avec nous pour l'éducation biblique. Vous allez avoir la chance de pouvoir vivre le mini-culte avec vos monitrices et puis aussi avec Agnès qui va elle-même vous annoncer la parole aussi et qui va être là avec vous ce matin. Bienvenue à vous tous qui êtes là aujourd'hui, peut-être avec un étonnement pour les personnes toutes nouvelles. Nous avons ce matin une assemblée générale dans notre église. Nous avons la chance de pouvoir voter, de pouvoir avoir une assemblée annuelle où nous pouvons revoir tout ce qui s'est passé dans l'année écoulée, faire un bilan, mais aussi se projeter vers l'avenir et être donc dans un système presbytéro-synodal qui permet au conseil presbytéral donc d'échanger avec toute l'assemblée qui est membre de l'association cultuelle de l'Oratoire du Louvre. Pour devenir membre, il faut le demander et donc si jamais, voilà, vous le savez maintenant si vous ne le saviez pas déjà. Donc nous allons tout à l'heure avoir notre assemblée générale à l'issue de ce culte. Voilà, j'espère, je pense que oui, il faut aussi signifier très clairement que nous avons le cœur avec nous. Alors ils sont un peu cachés, c'est pour ça que je ne percutais pas. Voilà, ah voilà, des têtes apparaissent. Alors le cœur est avec nous ce matin. Merci à vous d'être là avec Alexandre et Odilon. Donc Alexandre Korovitch va donc mener le cœur comme il le fait dans toutes les répétitions depuis déjà un moment et c'est une très très belle aventure qu'ils vivent ensemble. Et puis Odilon sera avec nous à l'orgue. Merci beaucoup d'être là. Nous allons entrer dans ce temps de culte avec le premier spontané de notre liturgie. Les enfants, vous prenez vos psautiers français. À l'entrée du psautier français, vous avez toute la liturgie et vous pouvez suivre maintenant. Vous connaissez ça par cœur. Merci.
Éternel. Éternel notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres, bœufs, tous ensemble, même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui se passe sur les routes des mers. Éternel, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Amis, frères et sœurs, je vous invite à poursuivre notre louange et nous prendrons maintenant le chant du psaume 92. « Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur !» Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la loi du Seigneur, ce qu'il nous indique pour que nous menions à bien la vie que nous avons reçue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Ça, c'est le premier et grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Prions ensemble. Je demandais la force afin de pouvoir accomplir ma tâche. Je reçus la faiblesse afin d'apprendre à obéir. Je demandais la santé afin de faire des choses plus grandes. Je reçus l'infirmité afin de faire des choses meilleures. Je demandais la richesse afin d'être heureux. Je reçus la pauvreté afin d'être sage. Je demandais la puissance afin d'avoir la louange des hommes. Je reçus l'impuissance afin de sentir le besoin de Dieu. Je demandais toutes choses afin de jouir de la vie. Je reçus la vie afin de jouir de toutes choses. Je ne reçus rien de ce que je demandais, mais tout ce que j'espérais. Presque malgré moi, la prière de mon cœur a été exaucée. Je suis bénie plus que tous les hommes. Amen.
Mais Dieu renouvelle sa grâce et je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce renouvelée pour nous. Il nous dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Alors va en paix. » Alors Odilon, merci beaucoup, mais alors pour frapper dans ses mains et être joyeux, maintenant que tu connais par cœur le répond, je vais te demander de le reprendre sur un rythme enlevé. Voilà, pour qu'on puisse frapper dans nos mains, dans notre tête.
Frappez dans vos mains.
Merci. Voilà, nous allons maintenant laisser partir les petits enfants de l'éducation biblique et les grands qui veulent les suivre au mini-culte pour que voilà, tout le monde puisse entendre la parole annoncée par Agnès.
Bonjour à tous et toutes, et également à ceux qui nous suivent par Internet. Je vous propose ce matin un parcours à travers de la littérature apocalyptique, et nous allons commencer par une lecture dans le livre de Zacharie, au chapitre 1, les versets 8 à 11. Voici ce que je vis pendant la nuit. Un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi les myrtes dans le gouffre. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, « Qui sont-ils, mon Seigneur ?» Le messager qui parlait avec moi me dit, « Moi, je vais te faire voir qui ils sont. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes dit, « Ce sont ceux que le Seigneur a envoyés parcourir la terre. » Ils dirent au messager du Seigneur qui se tenait parmi les myrtes, « Nous avons parcouru la terre, toute la terre est en repos et tranquille. » Et dans Zacharie 6, les versets 1 à 8. « Je levai de nouveau les yeux et je vis quatre chars qui sortaient d'entre les deux montagnes. Ces montagnes étaient des montagnes de bronze. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au deuxième char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés, vigoureux. Je demandai au messager qui parlait avec moi, « Ceux-là, que sont-ils, mon Seigneur ?» Le messager me répondit, « Ce sont les quatre vents du ciel qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Les chevaux noirs, attelés à l'un des chars, sortent vers le pays du nord, et les blancs sortent derrière eux. Les tachetés sortent vers les pays du sud. Vigoureux, ils sortent et demandent à aller parcourir la terre. Il leur dit, « Allez, parcourez la terre. » Et les chars parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, « Regarde, ceux qui sortent vers le pays du nord font reposer mon souffle dans le pays du nord. » Et dans le Nouveau Testament, nous lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 6, les versets 1 à 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. À celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre pour que les gens s'entr'égorgent, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur fais pas de mal. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire, viens. Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort et l'Hadès l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Seigneur, que ton esprit aide à faire de mes mots des mots de bonne nouvelle pour celles et ceux qui les entendent. Amen. Le premier texte de Zacharie que nous avons entendu se termine sur le récit des chevaux qui ont parcouru la terre. Ceux-ci, et dans la Bible comme dans les dessins animés, parfois les animaux parlent. Les chevaux, donc, rapporte la chose suivante au messager du Seigneur. Nous avons parcouru la terre, toute la terre est en repos et tranquille. Ces mots tout simples, toute la terre est en repos et tranquille, suscitent en moi, et peut-être aussi en vous, un désir doux, presque douloureux. Quelle puissance dans cette terre en repos et tranquille. Quelle paix également évoquée par ces mots. Comme j'aurais envie aujourd'hui, dans notre monde agité et animé de conflits, d'entendre ce rapport à l'issue d'une nuit parcourue à parcourir la terre. Toute la terre est en repos et tranquille. Et au milieu de cette terre, moi aussi, je suis en repos et tranquille. Pourtant, mon agenda et les bulletins d'information me rappellent sans cesse que ni le monde, ni moi-même ne sommes au repos. Quel contraste également entre l'affirmation de Zacharie au chapitre 1 et celle qu'on trouve au chapitre 6 du même livre, où les quatre chars tirés par les chevaux représentent les quatre vents du ciel. On les imagine prêts à se déchaîner sur la terre, ces chars tirés par des chevaux vigoureux. Et peut-être que c'est justement ces images de Zacharie que l'Apocalypse veut rappeler dans le passage que vous venez d'entendre et qui évoque l'apparition de quatre chevaux montés de quatre cavaliers. Quel contraste entre le calme du premier passage de Zacharie et la violence à peine contenue du passage de l'Apocalypse. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont bien connus de la culture populaire. En ce moment, ils réapparaissent dans des jeux vidéo, sur Facebook même, avec des fils de conversation entre les quatre, mais également aussi dans des mimes autour de la pandémie, de la guerre contre l'Ukraine. Et vous avez peut-être même vu au début du premier confinement les quatre cavaliers illustrant la pénurie de papier de toilette. Avant ces reprises humoristiques, les cavaliers ont généralement été nommés conquête, guerre, famine et mort. Dans le contexte historique de l'Apocalypse, ils représentaient probablement des entités particulières, comme les menaces représentées par les Parthes pour le premier cavalier, la mise en danger de la paix romaine pour le deuxième, l'augmentation du prix des céréales liée à des insécurités au sein de l'Empire pour le troisième, et la mort pour le dernier. Luther va également les interpréter négativement en donnant des traits orientaux au premier cavalier, qui l'identifie avec, comme il le dit, la menace turque. Les cavaliers sont également repris dans une chanson de Metallica, où ils sont identifiés comme temps, faim, pestilence et mort. Il semble donc bien que les quatre cavaliers du chapitre 6 de l'Apocalypse peuvent fonctionner comme des contenants vides, qui peuvent intégrer les significations que chacune, chacun trouve important de leur donner. Des signifiants en attente de signifier. Reste que dans l'Apocalypse, les contenus associés à chaque cavalier sont négatifs et violents. Le premier cavalier, monté sur son cheval blanc, part pour la victoire. Il évoque peut-être celui qui monte un autre cheval blanc en Apocalypse 19. Le cavalier d'Apocalypse 19 se nomme fidèle et vrai. Il fait la guerre avec justice. Et souvent, on pense qu'il représente le Christ, qui, à la fin des temps, va vaincre les puissances du mal. Mais au chapitre 6, le rôle du premier cavalier est plus ambigu. Il fonctionne comme un symbole de victoire. Peut-être qu'il rappelle aussi les nombreuses représentations sous forme de statuettes de déesses ailées de la victoire qu'on trouve un peu partout dans le pourtour méditerranéen à cette époque, Et si vous êtes passé au Louvre et que vous avez vu la victoire de Samothrace, c'est l'exemple géant de ces petites statues qu'on trouve un petit peu partout. Le deuxième cavalier, sur son cheval rouge-feu, détruit la paix et fait en sorte que les humains s'entre-égorgent. On peut voir sous les traits de ce deuxième cavalier toutes les figures, historiques ou non d'ailleurs, qui ont mené à la guerre et à la dévastation. Les créations post-apocalyptiques contemporaines en sont friandes. On peut par exemple penser à Voldemort dans la série Harry Potter ou à la figure de Thanos dans les films des Avengers. Mais on peut évidemment, chacun, chacune, y identifier également une figure historique. Le troisième cavalier, sur son cheval noir, évoque l'inflation et la famine qui va résulter de la famine qui va résulter de l'inflation, puisque les produits de première nécessité, tels que le blé et l'orge, voient leur prix augmenter. Quant à l'huile ou le vin, qu'on pourrait identifier avec des produits plus luxueux, ils sont épargnés dans cette hausse des prix. Autant dire que dans la crise que l'Apocalypse décrit, ce sont celles et ceux qui ont le moins qui souffriront le plus. Et ici, on peut se dire que plus ça change, plus c'est la même chose. Finalement, le quatrième cavalier, sur son cheval blême, en grec le mot est chloros, nous a donné chlorophylle évidemment, et chloros, ça évoque une couleur un peu indéfinissable, une espèce de vert assez pâle. Donc ce cheval verdâtre est identifié explicitement avec la mort. La mort vient suivie de l'Hadès, qui représente en même temps la divinité du royaume des morts et le royaume des morts lui-même. Ces quatre cavaliers sont autorisés, probablement par Dieu lui-même, à anéantir le quart de la terre. Leur pouvoir, quoique terrifiant et dévastateur, est limité par la puissance de Dieu elle-même. Cela fait également partie d'un motif concentrique dans l'Apocalypse, pour laquelle les catastrophes s'étendent toujours plus largement au fur et à mesure du récit, mais ne touchent jamais l'humanité entière. Il y a toujours une partie de la population mise de côté et préservée pour participer au culte. Le culte joue d'ailleurs un rôle fondamental dans le récit et ponctue de nombreux épisodes, comme une respiration au sein des catastrophes qui s'enchaînent dans le livre. Il est évidemment tentant aujourd'hui d'associer les cavaliers aux différents maux qui nous assaillent, nous, personnellement, ou le monde. Le contexte actuel semble faire écho au langage apocalyptique, à son obsession avec une fin du monde toujours à venir, mais de plus en plus proche. On entend cette inquiétude dans les discussions autour de la crise climatique, mais on trouve également des nuances apocalyptiques dans les analyses des opérations de guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Notre avenir semble fragile et menacé par des forces qui sont difficiles à contrôler et à changer. La réponse donnée par l'Apocalypse à ces situations est à première vue assez simple. Peu importe les violences et les horreurs qui prennent place dans le monde, l'agneau se montrera plus fort qu'elle et triomphera. C'est justement le rôle du cavalier d'Apocalypse 19 dont j'ai déjà parlé. Ce cavalier est identifié au chapitre 19 avec la parole de Dieu. Et l'Apocalypse explique qu'il viendra entouré des armées du ciel. Avec son épée, il frappera les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Il exprimera la colère ardente de Dieu. On donne encore une fois son nom. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il détruit la bête, les rois de la terre et leurs armées. La défaite est si complète pour les forces du mal que le passage se termine en indiquant que tous les oiseaux se rassasient des chairs des victimes du cavalier d'Apocalypse 19. Dans le contexte donc d'un conflit entre deux puissances, la puissance du bien et la puissance du mal, l'Apocalypse à première vue offre la solution suivante. À puissance, puissance et demi. Le Christ et son Dieu triomphent de tous les autres pouvoirs. Ils sont infiniment plus puissants que les forces qui s'opposent à eux et ils s'inscrivent en fait parfaitement dans une logique de pouvoir violent et guerrier. Face à cette réponse proposée par l'Apocalypse, on peut se demander que faire si un sauveur tel que celui proposé par l'Apocalypse ne semble pas exister ? Ou peut-être, de manière plus importante, que faire si la perspective d'un sauveur violent et guerrier ne nous semble pas suffisante ou pas souhaitable ? Que faire si le modèle du Christ tout-puissant qui prend la place de l'empereur dans la hiérarchie du monde ne nous satisfait pas ? Sommes-nous condamnés à aller chercher ailleurs que dans les récits de l'Apocalypse ? Le langage contenu dans ce livre, avec toute sa poésie fantastique, est-il en mesure d'offrir des pistes de réflexion quant à nos inquiétudes de fin du monde ? Au-delà de la présentation d'un Christ souverain et d'un Dieu tout-puissant, les deux contiennent leur part de violence, l'Apocalypse ouvre des espaces, il me semble, pour penser non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, ou les fins d'un monde. Deux pistes me semblent fructueuses. L'une s'incarne dans l'agneau immolé du chapitre 5, qui est le seul trouvé digne d'ouvrir le livre scellé. L'autre se joue dans la manière dont l'Apocalypse propose une réflexion sur le temps et l'espace. Et je vous propose de suivre l'une et l'autre. L'agneau immolé qu'on trouve pour la première fois dans Apocalypse 5 va jouer un rôle important dans la suite du livre. C'est une créature tout à fait particulière. Il est décrit de la manière suivante en Apocalypse 5 au verset 6. Un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans cette description, a priori un petit peu mystérieuse, hein, d'un agneau couvert de cornes et Dieu debout et immolé, il y a des indicateurs de pouvoir. Les cornes, dans l'Antiquité, plus une divinité a de cornes, plus elle est puissante. Sept cornes, sept, c'est le chiffre parfait, donc sept cornes, il est parfaitement puissant. Et il est debout. On a donc des indicateurs de pouvoir, on a des indicateurs de maîtrise de la création. Il a sept yeux, comme sept esprits de Dieu qui voient tout dans la création. Mais il y a aussi des signaux de faiblesse. En tant qu'agneau, il est l'offrande par excellence dans les sacrifices, ce qui est évidemment souligné par le fait qu'il est présenté comme immolé. On entend d'ailleurs l'écho d'un autre prophète, d'Ésaïe. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Donc celui qui va vaincre les puissances du mal, c'est l'agneau du sacrifice, celui qui ne répond pas à la violence par la violence, mais la subit. La figure du Christ est donc ambiguë dans l'Apocalypse. Elle n'est pas la victime qui accepte de souffrir pour sauver le monde. Elle n'invite pas au dolorisme. Mais elle n'est pas non plus celui qui triomphe sans conscience de la faiblesse, en voulant éviter à tout prix l'abaissement. Les deux dimensions, la puissance et l'abaissement, sont présentes dans le Christ de l'Apocalypse. Elles sont, à vrai dire, difficiles à concilier et le livre lui-même semble parfois lutter pour garder les deux dimensions ensemble. On le voit dans la description de l'agneau debout immolé. Mais il reste que l'effort est là. Celui qui triomphe, c'est aussi l'agneau vaincu, qui qui propose une autre forme de souveraineté et d'incarnation du pouvoir. Si, face à la réalité de la violence que l'on trouve dans le monde, la figure de l'agneau immolé offre une réponse qui dépend de la christologie, l'Apocalypse va encore proposer une autre réponse, il me semble, et cette autre réponse est proprement apocalyptique, dans le sens où elle joue sur la dimension révélatrice du livre. Vous savez sûrement en effet que le mot « apocalypse » vient d'un verbe qui en grec veut dire « dévoiler », « révéler ». L'Apocalypse révèle, dévoile. Souvent, on le comprend comme la révélation de choses secrètes ou d'événements futurs. Mais la révélation se joue également, et à vrai dire peut-être plus, dans une perspective sur la réalité, sur ce que nous voyons dans le monde et ce que nous comprenons du monde. L'Apocalypse, dans son sens premier de révélation, de dévoilement, nous invite à regarder la réalité autrement, à aller au-delà de l'organisation apparente de l'univers pour en saisir le sens profond. Dans cette compréhension du temps et de l'espace proposée par l'Apocalypse, on trouve un rappel que le temps et l'espace délimités par le culte, ce qu'on pourrait appeler donc le temps et l'espace de l'Église, ne sont pas un temps et un espace hors de la réalité. Pour le dire autrement, le temps et l'espace de l'Église ne sont pas une façon de sortir de la réalité, d'échapper à notre réalité pour un moment. Au contraire, la révélation de l'Apocalypse, c'est de montrer que le temps et l'espace du culte, le temps et l'espace de l'Église, sont réalités au sens le plus profond. Ce sont justement des réalités plus réelles, plus importantes que les réalités auxquelles nous donnons de l'importance dans notre vie de tous les jours. Dans cette dimension de temps et d'espace plus réel, plus important, le culte, l'Église, sont peut-être le lieu qui nous révèle comment la Terre, dans toutes ses imperfections, ses fêlures et ses luttes, peut être en repos et tranquille. Amen.
merci beaucoup. Nous chantons maintenant tous ensemble le 309, le cantique 309 dans Louange et prière. 1, 3 et 4.
Quelques annonces. Tout d'abord, merci Valérie au nom du Conseil presbytéral et de toute l'Assemblée pour ta prédication qui nous rappelle des choses fondamentales, pourquoi nous sommes dans une église et l'importance du temps dans l'église, et notamment la paix dans l'église. Tout à l'heure, Assemblée générale, les pasteurs, c'est toujours de prêcher selon l'actualité. Donc juste après, vous êtes les bienvenus pour rester pour l'Assemblée Générale de notre association cultuelle, même si vous n'êtes pas membre, si vous voulez rester, vous êtes vraiment les bienvenus, les portes sont grandes ouvertes, c'est comme notre église, les portes sont grandes ouvertes à toutes et à tous. Cette semaine, quelques annonces. Lundi, le groupe protestant des artistes réunit, également il y a cours de grec, et le soir, si vous regardez France 3, Secret d'Histoire, vous aurez la chance sur Marguerite de Navarre, de découvrir des images de l'oratoire du Louvre et de notre ami Pierre-Olivier Léchaud qui est interviewé en tant qu'historien, cette fois-ci, historien du protestantisme, sur l'histoire de Marguerite de Navarre, donc lundi soir sur France 3. Mardi, séance théophile, là aussi sur la sagesse proverbiale avec Jean-Pierre Clairaut, Béatrice Clairaut-Mazir. Mercredi, encore de la sagesse, parce que c'est de la réconciliation mercredi, groupe œcuménique, biblique œcuménique, qui se réunira cette fois-ci non pas à Saint-Eustache, mais à la maison presbytérale, mercredi soir. Vendredi, ici, la commémoration des 450 ans de la Saint-Barthélemy commence. Il y a du 19 au 21 mai un colloque à la Sorbonne sur la Saint-Barthélemy, qui est assez de très très haut niveau, j'allais dire. Nous vous avons 1000 programmes sur le site, également dans la newsletter. Mais dans ce cadre, la Sorbonne a choisi le cadre de l'Oratoire du Louvre pour la première fois représenter une pièce de Marlowe qui s'appelle Massacre à Paris. Et tout le temple devrait être utilisé par le metteur en scène. Cette représentation est ouverte à tous à 20h, entrée libre. Il devrait y avoir du monde, parce qu'ils attendent beaucoup de monde au colloque. Mais vraiment, rejoignez à 20h le temple de l'Oratoire du Louvre pour y voir une pièce de théâtre que peu de gens connaissent, puisqu'elle n'avait pas été traduite en français depuis jusqu'ici. Et surtout, ça devrait être assez étonnant de voir l'oratoire du Louvre utilisé dans ce cadre. Voilà pour vendredi soir. Dimanche prochain, encore une femme en chair. On ne le fait pas exprès. L'IPT, donc, qui est l'Institut protestant de Paris, a choisi en doyenne Valérie Nicolet. Et l'Église de Bruxelles a choisi une pasteur qui viendra dimanche prochain. Vous savez que nous sommes tenus avec nos prédécesseurs à faire des cultes avec des églises européennes. Nous avons eu Berlin. Cette fois-ci, nous aurons Bruxelles dimanche prochain. Et puis nos deux pasteurs, qui sont aussi des femmes, ont été discernés par l'équipe d'avant de conseil presbytéral. Donc le fait d'être une femme ou un homme n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'elles sont discernées, elles soient respectées en tant que telles dans leur ministère. Voilà. Merci à tous. Bon dimanche. Nous lançons le temps de l'offrande. Et le don joyeux pour ceux qui sont en ligne, parce que sachez que, en tout cas, juste avant ces annonces, nous étions 108 personnes en ligne en train de suivre le culte en direct avec nous. Merci à vous et bon dimanche.
Nous nous réunissons dans la prière. Éternel, nous te remettons notre monde. Avec toutes ces fractures, ces difficultés, ces violences, parfois tellement insoutenables que nous nous demandons si c'est encore de l'humanité dont nous parlons. Nous te remettons tous ceux qui souffrent dans leur chair de la guerre, de la violence d'états sanguinaires, et où le droit ne règne pas. Permets, Seigneur, qu'au milieu de toute cette fureur, nous puissions retrouver ta lumière, non pas pour qu'elle annule toute cette réalité dans notre esprit et dans notre conscience, parce qu'il nous faut être lucides, mais pour que cette lumière nous permette d'espérer sans cesse que ton règne vienne. Permet que nous soyons de ceux qui militent pour le droit, pour la probité, pour l'équité. Permet que nous soyons de ceux qui puissent dénoncer les violences. Permet que nous soyons tes témoins, simplement dans ce monde, avec tout ce que cela engage de notre vie, avec tout ce que cela nous demande de courage. Que cette lumière soit toujours à l'horizon de nos vies, qu'elle soit toujours devant nous, comme un devoir, mais aussi comme un réconfort, une consolation et un espoir inaltérable. Nous te remettons nos vies, nous te remettons nos propres guerres intimes, celles qui nous divisent, celles qui nous rendent parfois si fragiles pour mener le bon combat à celui que tu nous as donné à combattre. Permets que nous soyons pacifiés intérieurement. Et ensemble, nous te disons dans la confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce temps était un temps de halte pour nous, un temps pour nous remettre à l'écoute d'une parole qui nous fait vivre. Alors que cette parole soit vie dans vos vies, qu'elle soit lumière dans vos divisions, qu'elle soit la paix. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Amen. Les enfants du catéchisme, vous pouvez rejoindre les autres enfants qui sont de l'autre côté à la maison presbytérale en faisant bien attention à vous en sortant de ce lieu. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et nous allons tout de suite passer à notre assemblée générale. Merci, bon dimanche à tous.